Frères et sœurs, pourquoi donc, il y a 12 ans, donc c'était le 30 avril de l'an 2000, le pape Jean-Paul II a-t-il institué ce deuxième dimanche de Pâques comme le dimanche de la miséricorde divine? Alors vous me direz peut-être, c'est parce que il répondait au désir qu'avait formulé le Seigneur à travers la sœur Faustine. Mais est-ce que ce n'était pas rajouter un peu une sorte de dévotion supplémentaire qui viendrait un peu comme un cheveu sur la soupe? Alors, je vous repose encore la question. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II a institué ce deuxième dimanche de Pâques comme dimanche de la miséricorde divine? Alors il me semble que ce qu'il y a de plus visible en quelque sorte dans la résurrection, en tout cas pour les apôtres qui ont été témoins, qui ont vu le Seigneur ressuscité, ce qu'il y avait de plus visible au point de départ, c'est la victoire du Christ sur la mort. Là, on voit et on comprend leur joie dans le texte d'Évangile de ce jour. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Alors, cette joie d'abord parce qu'il était mort, il est vivant. Mais la résurrection du Seigneur, ce n'est pas un pas en arrière, un retour en arrière et puis on recommence. C'est un pas en avant décisif. Mais ce pas en avant, la victoire de Jésus, la résurrection n'est pas seulement, et pas d'abord d'une certaine façon, la victoire sur la mort. C'est d'abord la victoire sur le péché, le mal. La résurrection nous dit la victoire de l'amour de Dieu sur le péché. Alors dans la liturgie byzantine, il est dit que le pardon sort du tombeau. Voilà, alors donc ce dimanche de la miséricorde divine s'inscrit très étroitement au terme de cette octave de Pâques, vraiment dans cette célébration de la résurrection. Peut-être le dimanche de Pâques, on pense davantage à Jésus qui sort du tombeau, voilà. Aujourd'hui, davantage à ce qui est, oui, à cette victoire de Jésus sur le mal. Alors, nous allons méditer un petit peu sur cette victoire de Jésus sur le mal et dans un deuxième temps, on va voir comment, on va essayer de voir en tout cas, comment ça nous rejoint aussi dans notre vie personnelle. Hein, parce que Jésus n'est pas ressuscité pour lui, il est ressuscité pour nous. Alors revenons un petit peu au texte d'Évangile. Donc, au début, les portes du Cénacle sont verrouillées. Alors plus encore que les portes du Cénacle, c'est sans doute la porte du cœur des apôtres qui sont verrouillées. Et parce qu'ils ont peur, et cette peur est bien compréhensible, hein, ils ont été témoins de l'arrestation de Jésus et de la violence qui a déferlé sur Jésus, donc du pouvoir du mal. Hein. Alors on peut comprendre cette peur, mais à travers cette apparition du Seigneur ressuscité, alors cette peur va les abandonner, pour laisser place à la joie, à la paix, à la joie et à l'accueil de l'Esprit-Saint. Alors, une première chose que nous enseigne cette apparition du Seigneur ressuscité, c'est que le pardon, c'est pas un oubli, comme si c'était un cauchemar, et puis un vilain cauchemar, et puis on se réveille, et puis allez, on revient des pensées un peu plus réjouissantes. Non, le pardon n'est pas un oubli. C'est pas effacé comme sur une ardoise magique, et puis voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur nous montre ses plaies, montre aux disciples ses plaies, et garde les marques de sa passion, mais il en est victorieux. Hein. Vous savez, une image du pardon que j'aime bien, c'est une cicatrice. Alors, une cicatrice, habituellement, c'est pas très très beau. Mais en même temps, elle nous dit à la fois qu'il y a eu une blessure, mais en même temps, elle nous dit que la vie a surmonté la blessure, a été plus forte que le mal. Et quelque part, ces plaies du Seigneur ressuscité, et c'est ce qui fait toucher à Thomas, voilà, on ne nie pas la mort de Jésus, on ne nie pas la souffrance qu'il a vécue, on ne nie pas tout le mal qu'il a déversé sur lui. Mais ces plaies sont glorifiées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand bénit le cierge pendant la nuit pascale, on met des grains d'encens. Alors, vous, je sais pas, au-dessus et de chaque côté de la croix, vous voyez et puis au centre, vous voyez des grains d'encens. Alors, c'est pour signifier les plaies du Seigneur, hein, ces grains d'encens. Bon, je reviens. Alors, la résurrection vient vraiment débloquer quelque chose dans le cœur des apôtres. Mais ce n'est pas d'abord un déblocage, on pourrait dire, au niveau psychologique. Il y a d'abord quelque chose d'objectif qui s'est passé. Dans les actes des apôtres, il me semble, on dit qu'en ressuscitant le Seigneur Jésus, le Père a donné une garantie sur lui. Quelque part, ils sont sûrs que l'offrande de Jésus sur la croix pour nous sauver, n'a pas été vaine. Non, vraiment, vraiment, nous sommes libérés de nos péchés grâce au sacrifice de Jésus. Alors, ça, c'est vraiment le fondement sur lequel peuvent s'appuyer les apôtres, hein, qui, encore une fois, il ne s'agit pas d'être naïf par rapport au mal, mais de voir combien le Seigneur est victorieux du mal. Alors, comment ça vient nous rejoindre? Alors, dans le passage d'Évangile, si on poursuit un peu, donc Jésus envoie ses disciples et pour cela leur communique l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, le pardon est hors de notre portée. C'est l'Esprit Saint qui leur permettra d'être comme les messagers du pardon de Dieu, des ambassadeurs de la réconciliation. C'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si parmi les premières personnes à qui le Christ apparaît le matin de Pâques, donc il y a Marie-Madeleine, la pécheresse repentante, il y a aussi Pierre qui a renié Jésus. Là, c'est vraiment le pardon qui est sorti de la tombe. Et il confie cette mission justement à des pécheurs pardonnés de communiquer son pardon. Alors, ce pardon, c'est d'abord le pardon sacramentel. Alors, les apôtres et à leur suite les prêtres ont cette belle grâce de pouvoir communiquer le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, vous savez que c'est le canal privilégié du pardon de Dieu. Alors c'est dommage de ne pas en profiter. D'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas très pro sur le commandement de l'Église, mais sans doute que vous savez que l'Église demande à chacun de se confesser au moins une fois l'an. Et plus si on a commis des fautes graves, bien sûr. Et pour être tout à fait cohérent, on ne devrait même pas accéder à la communion si on ne s'est pas confessé depuis plus d'un an. Ça serait assez cohérent avec ce que nous demande l'Église. Parce que c'est un beau moyen que le Seigneur met à notre disposition. D'ailleurs, je vous rassure, le prêtre, il ne peut pas se pardonner lui-même. Lui aussi, comme un malheureux, il doit aller devant un autre prêtre et demander pardon de ses péchés. Voilà, alors donc, c'est un moyen très humble, mais très beau que le Seigneur nous donne pour nous réconcilier avec lui. Alors, effectivement, c'est une souffrance aussi pour certaines personnes qui ne peuvent pas recevoir le pardon sacramentel. Mais alors, c'est important que ces personnes sachent que Dieu est plus grand que les sacrements. Il peut pardonner aussi en dehors du sacrement, selon son secret à lui. Mais en tout cas, quand on a la possibilité de pouvoir recourir au sacrement, ce serait dommageable de faire un peu la fine bouche et de ne pas y recourir un peu. Vous connaissez aussi dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, l'épisode de Naaman, le Syrien. Il vient voir le prophète, il pense être purifié de sa lèpre, tout ça, il pense qu'il y aura un peu de cinéma autour, tout ça, et puis bon, c'est quand même le général en chef, il pourrait se déranger, il ne se dérange même pas, il envoie un petit serviteur comme un petit prêtre là, qui a tous ses défauts. Et pour lui dire, bah, va te baigner cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette. Alors au début, il est un peu vexé, un peu piqué dans son amour propre, et puis il n'a pas envie. Et c'est ses serviteurs qui lui disent, mais t'aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Puis là, il te demande quelque chose de simple, mais bon, t'es un peu blessé dans ta fierté, t'y vas pas. Alors finalement, il se laisse convaincre, il y va et il est purifié. Alors pour nous, c'est, il me semble que ça peut être une image du sacrement de la réconciliation. Où, voilà, c'est... Ça nous coûte souvent, mais en un sens, c'est très simple de recevoir ce pardon qui nous vient encore du tombeau de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, c'est vrai du pardon sacramentel, mais c'est vrai aussi de plus largement. Le Seigneur envoie ses disciples, ses apôtres, à être comme les ambassadeurs de la réconciliation, et pour nous aussi. Et pour annoncer aussi dans notre monde et dans notre propre vie aussi que c'est pas le mal qui a le dernier mot. Voilà quelques phrases de Jean-Paul II où il disait pourquoi il avait souhaité cette fête, instituer ce dimanche de la miséricorde. Le monde d'aujourd'hui a tant besoin de la miséricorde de Dieu. Là où domine la haine et la soif de vengeance, là où la guerre apporte la douleur et la mort des innocents, on a besoin de la grâce de la miséricorde pour apaiser les esprits et les cœurs et faire naître la paix. Nous avons particulièrement besoin de cette annonce aujourd'hui, à une époque où l'homme se trouve désemparé face aux multiples manifestations du mal. Il faut que l'invocation de la miséricorde de Dieu jaillissent du plus profond des cœurs remplis de souffrance, d'appréhension et d'incertitude, mais en même temps à la recherche d'une source infaillible d'espérance. Avec la résurrection de Jésus, il y a clairement une limite au mal. C'est pas le mal qui a le dernier mot. Alors pour nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord poser un acte de foi en la résurrection de Jésus qui est victorieux du mal. Pas une foi peut-être un peu abstraite, mais assez concrète dans notre vie, peut-être par rapport à telle ou telle situation que nous vivons ou que nous avons vécue, de croire que le pardon de Dieu est plus puissant que le mal. Encore une fois, il annule pas le mal. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des naïfs, mais il nous donne la grâce aussi du pardon. Alors c'est cette grâce de foi là que Thomas a eu un peu de mal, nous aussi. Mais la dernière phrase de l'évangile, afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom, cette vie de Dieu. Alors demandons par Marie, qui marche en avant de nous toujours, elle est toujours quelques pas en avant, ou beaucoup de pas en avant, de nous aider à poser cet acte de foi en l'amour de Dieu qui est plus puissant que le mal.